Bonjour, et voici un nouveau rendez-vous des carnets de Comaguerre sur l'actualité internationale, comme tous les mardis à la même heure, en compagnie des complices habituels, Roselyne, bonjour, Eric, bonjour,
bonjour.
Et avec l'appui technique incontournable
bonjour.
De Sidi, bonjour Sidi, qui est appuyé aujourd'hui par deux visiteurs ou deux stagiaires, je ne sais pas, qui sont là pour écouter une radio live, comme on dit en anglais dans le texte. Je vais commencer par une petite nouvelle qui aurait fait plaisir à Habib, qu'on attend peut-être dans un petit moment. C'est que hier, l'aviation israélienne a bombardé sur le port de Latakié, donc qui est le principal port de Syrie sur la côte méditerranéenne, a bombardé 3 containers. Alors imaginez, si vous n'avez jamais vu un port, d'abord une aviation d'un pays qui officiellement n'est pas en guerre avec la Syrie, qui s'appelle Israël, qui vient donc bombarder 3 containers qui prennent feu. Alors vous avez vu la taille des containers, on en voit tous les jours dans les rues sur des camions. Tout ça au milieu d'un parc de containers, c'est-à-dire que tout autour, il y a des centaines, peut-être des milliers de containers alignés les uns à côté des autres. Or, l'aviation israélienne, dans sa grande capacité, dans ses grandes performances, arrive à viser 3 containers et à y mettre le feu. Bon. Qu'y avait-il dans ces containers ? Certainement, beaucoup de gens le savent, mais l'excuse d'Israël... Alors, Israël ne s'excuse même plus depuis longtemps pour bombarder un pays avec lequel il n'est pas en guerre. Ça, c'est quasiment quotidien. Alors, on sait qu'aujourd'hui, les défenses antiaériennes syriennes arrivent quand même à arrêter un certain nombre de tirs, mais pas tous. Donc, hier, c'est passé, et donc les 3 containers ont pris feu dans la nuit tombée sur le port de Latakié. Excuses, parce qu'en plus ils ont le culot de chercher des excuses, ils viennent bombarder donc dans un pays étranger une installation civile, c'est un port de commerce, avec 3 containers, paraît-il, qui les intéressent, parce qu'il y aurait dedans des produits provenant d'Iran ou étant des armes iraniennes utilisées par le régime, le gouvernement syrien. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Évidemment, je pense que les autorités portuaires syriennes le savent. Mais la Syrie a le droit de recevoir l'appui d'un pays tiers, de recevoir de l'armement d'un pays étranger qu'elle a acheté, avec lequel elle a passé des accords. Ça, il n'y a rien à lui reprocher. Simplement, ce qu'il y a à reprocher, c'est qu'un autre pays vient bombarder 3 containers. Alors, on peut admirer la précision du tir, donc le fait que ce missile ou cet avion donc, a réussi à déjouer les défenses antiaériennes syriennes, qu'il a ciblé probablement ce qu'il voulait, puisque l'armée de l'air israélienne argumente qu'il s'agit de matériel iranien. Donc, grande précision, c'est-à-dire que bravo, alors coup de chapeau sur les espions israéliens, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'il y a dans chaque conteneur. Un conteneur, c'est une boîte qui est fermée, alors il peut y avoir dedans des machines à coudre, des aiguilles à tricoter ou des mitrailleuses. Effectivement, tout ça est possible. Donc, eux, ils savaient, c'était ça qui les intéressait. Et ça amène à une réflexion. Parce que vous vous souvenez que cette précision de tir israélien, remarquable en l'occurrence, un coup de chapeau sur le travail des espions et sur le travail de ciblage par l'armée de l'air israélienne. Mais souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, d'une immense explosion qui a eu lieu au mois d'août dans le port de Beyrouth, où a été mis à feu donc un produit extrêmement explosif qu'on appelle le nitrate d'ammonium, qui a deux usages possibles, un usage en tant qu'engrais, très très couramment utilisé dans le monde, et l'utilisation seconde et l'usage en termes d'explosifs quand on le mélange à du gasoil, en gros, pour faire simple. Bon, il se trouve qu'il y avait dans un hangar du port de Beyrouth plusieurs tonnes, plusieurs même dizaines de tonnes de nitrate d'ammonium, et ce nitrate d'ammonium un beau jour a pris feu. Or, ça ne prend pas feu tout seul, le nitrate d'ammonium. Il faut 300-400 degrés, etc. Donc, il faut l'aider. Et donc, on peut dire que, moi, la conclusion que j'en tire, c'est que l'extrême capacité de l'armée de l'air israélienne à tirer juste, c'est-à-dire à viser 3 containers, ça fait 6 mètres, 3 fois 6 mètres, 18 mètres de long, sur un port où il y a des milliers de containers, de la même façon à viser un hangar fermé où il y a du nitrate d'ammonium dans des gros sacs, ça montre que c'est du travail d'expert. On tire où on veut. Et donc, ça amène à la conclusion ou à la réflexion que je fais devant vous. Mais donc, ils savent très bien faire ça. Et pourquoi se seraient-ils gênés pour faire exploser le nitrate d'ammonium à Beyrouth ? Aucune raison. Ils savaient le faire, ils l'ont fait. Bon. Mais ça, évidemment, ils ne se sont pas vantés et personne n'a essayé de démontrer qu'ils en étaient capables. Mais ils en sont effectivement capables. Ils viennent de le démontrer hier à Latakié. Ils sont tout à fait capables d'avoir fait sauter le nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth. Alors, ce qui est magnifique, c'est que depuis maintenant quasiment 18 mois, l'administration libanaise, la justice libanaise cherche absolument qui peut avoir provoqué cette explosion. Et il s'oriente tout à fait. Alors, on vous montre un coupable d'un côté, vous regardez dans l'autre sens. En gros, c'est à peu près ça. Et ça doit être le Hezbollah. C'est tellement facile, puisque le Hezbollah est le responsable de tout ce qui va mal, au moins pour les intérêts israéliens. Ça doit être le Hezbollah. Et le Hezbollah ricane, il a déjà répondu, j'en ai déjà parlé, en disant « Mais attendez, nous, au niveau militaire où nous sommes arrivés, on ne bricole pas avec du nitrate d'ammonium, qui est un explosif pour amateurs ou terroristes débutants. Nous, on est beaucoup mieux armés que ça, on travaille beaucoup mieux et on ne travaille pas dans cette espèce de semi-artisanat terroriste. Allez vous rhabiller. » Et ils disent « Alors, quand est-ce qu'on sort les résultats de l'enquête officielle ?» Elle ne sort toujours pas. Et bien entendu, imaginez que l'enquête officielle dise que ça pourrait bien être un tir d'un missile israélien qui a fait sauter le nitrate d'ammonium. C'est absolument inenvisageable. Et ceci explique peut-être que le nouveau ministre de l'Information libanais, dans un nouveau gouvernement qui a été mis sur pied avec beaucoup de difficultés après, je crois, depuis pratiquement l'explosion de Beyrouth, on attendait un nouveau gouvernement, ça y en a un. Et le nouveau ministre de l'Information, qui aurait dû faire son travail, dit, ben voilà, je vais vous donner des nouvelles de ce qui se passe et de ce qui s'est passé, parce qu'il y a quand même eu des centaines de morts, des milliers d'habitations détruites, etc. Eh bien, ce ministre de l'Information est contesté. Alors, contesté par qui ? Il est contesté par l'Arabie saoudite. Tiens, comment ? Ah, donc, il déplairait beaucoup à l'Arabie saoudite, parce que c'est une façon, à mon avis, la contestation dont il est la victime, consiste à l'obliger à se taire. Ne dis surtout pas qui a fait sauter le nitrate d'ammonium, sinon on te fera taire et à la limite on ne se gênera pas pour t'envoyer ad patres, comme on dit dans les églises, hein, pour se débarrasser de toi. Et le pauvre est bien embuté parce que peut-être il tient à la vie, ce qui est un sentiment tout à fait respectable, que fût-on ministre de l'Information d'un gouvernement libanais. Voilà. Donc je voulais insister là-dessus parce que les événements comme ça, c'est à la limite du fait divers. On en est arrivé au fait que l'aviation israélienne bombardant un pays étranger, c'est un fait divers. On ne saisit pas l'ONU, il n'y a pas des campagnes de presse, vous n'avez pas une intervention de Castex au journal télévisé. Non, pas du tout, c'est banal, hein, puisque après tout, Israël fait ça depuis très très longtemps. Alors effectivement, le Hezbollah, ça les dérange parce que quand Israël s'en prend au Hezbollah, ben jusqu'à nouvel ordre, enfin depuis l'an 2000, ce n'est pas Israël qui gagne. Et là, d'où cette espèce d'acharlement à dire, il faut absolument dire que c'est la faute du Hezbollah et derrière le Hezbollah, des Iraniens. Ça nous ramène à un sujet plus général, puisque vous savez que se sont réouvertes les négociations pour la remise en œuvre de l'accord, donc passé au moment de la présidence Obama, de l'accord sur le nucléaire iranien. Alors, il s'est d'abord rien passé. Les Iraniens ayant fait savoir que l'accord, ils n'avaient jamais, eux, dénoncé que c'était aux États-Unis de revenir sur la table des négociations, puisque c'est Trump qui a dénoncé l'accord. Et puis, petit à petit, le sujet est revenu sur le tapis, au point qu'il y a de ça quelques jours, les négociations ont repris sur la remise à jour de l'accord sur le nucléaire. Alors, je dis remise à jour, c'est la façon dont les journalistes vont vous en parler. Les Iraniens n'ont pas changé de position. Ils disent qu'il y avait un accord qui avait été signé, d'ailleurs, pas que par les États-Unis, mais par la France, par l'Allemagne, par la Grande-Bretagne. Eux ne sont pas revenus sur leur signature, donc c'est aux États-Unis de revenir sur la table des négociations pour dire « alors on le remet en vigueur ou on ne le remet pas en vigueur ». Alors, les États-Unis veulent bien aller à la table de négociation, mais ils arrivent à dire « oui, mais il faut modifier l'accord ». Donc, effectivement, la négociation commence mal, puisqu'ils disent « on veut bien renégocier à condition que l'Iran fasse des concessions supplémentaires ». C'est-à-dire que ce qu'il avait fait au moment de la signature avec Obama, ça n'est pas assez. C'est-à-dire on veut bien négocier, mais d'abord un genou par terre, léchez-nous les bottes, et après on pourra discuter. C'est en gros, c'est ça la position. Alors les Iraniens, ils n'aiment pas du tout ce langage-là. Ils disent, mais on vous connaît, etc. Vous avez déjà fait ça, vous nous bombardez, vous nous tuez nos soldats, nos généraux, le Soleimani, etc. Hein, parce que la Russie, c'est reconnu et tout. Donc on ne veut pas. Il y a simplement un texte. Est-ce que vous voulez, oui ou non, remettre en application ce texte ? Alors ça patauge un peu, parce qu'effectivement, Biden, il n'est pas revenu, pas lui-même, mais à la table des négociations, pour dire, ben finalement, on s'est trompé, on avait signé, et puis voilà, on n'en parle plus. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est d'autant moins possible que Israël est derrière, et qu'Israël, on va en reparler à propos d'autres sujets, Israël sent bien que du côté de l'administration des États-Unis. Alors, quand on dit administration, on dit un président, ses secrétaires d'État, le Pentagone, enfin tout ce qui tourne autour, la CIA et tout, on sent bien, et à Israël, et pas que sur ce seul cas, que l'administration Biden, elle est faiblarde. elle n'est pas très unie, que le président est dans un état de fatigue assez avancé, qu'on le sort de temps en temps pour faire un discours, ou qu'il sort lui-même de son souterrain pour faire un discours, mais qu'entre-temps, il n'est pas le maître de tous les dossiers, et que donc, il y a des voix divergentes, son secrétaire d'État donc, dit des choses qu'il n'a pas dit lui, en général, ils sont plus durs, lui arrive plutôt pour un peu arrondir les angles, dire non, on va quand même essayer de discuter, et puis les autres passent derrière et disent non, il n'y a rien à changer, on a raison, et puis c'est terminé. Bon, donc on a un vrai sentiment, que je ne suis pas seul à avoir, hein, beaucoup dans la presse occidentale en général, et dans la presse russe c'est pareil, on a le sentiment, en fait, on ne sait pas à qui on parle aujourd'hui à Washington, qui gouverne vraiment. Ce qui amène les Iraniens à dire, attendez, clarifiez la position, à qui on parle, qu'est-ce que vous voulez, et puis est-ce que c'est bien tout le monde qui est d'accord, et est-ce que ceux qu'on a devant nous pour parler qui se tiennent à Vienne sont bien du même avis que le président qui les a envoyés. Et ça, apparemment, rien n'est moins sûr. Alors ça peut être, alors, en imaginant que Biden ait encore la capacité physique et intellectuelle d'être machiavélique, ce que j'ignore... Bon, mais il pourrait dire, moi, je suis enfin, le bon flic. Vous connaissez la parabole du bon flic et du mauvais flic. Hein, moi, je suis le bon flic. Je dis, bon, ça va s'arranger. Bon, les autres t'ont tabassé, ils t'ont torturé à mort. Mais je te veux pas de mal. En gros, c'est ça, le bon flic et le mauvais flic. Mais on ne sait pas trop, parce que ce partage des rôles qui peut être le résultat des courses n'est pas forcément volontaire. C'est-à-dire aussi bien Biden, on l'a envoyé là-dedans dans le rôle du bon flic et on ne lui a pas dit. Ou il n'a pas tout compris. Il y a peut-être des choses qui lui échappent. De la même façon que ceux qui sont le mauvais flic, les tabasseurs, les tortureurs et tout, ils veulent avancer, même s'ils savent que du côté de la présidence et de la Maison-Blanche, on leur dit, écoutez, calmez-vous un peu. Je pense qu'on a un vrai conflit de pouvoir au sein de la direction politique des États-Unis, qui se traduit par cette espèce de flottement sur pas mal de dossiers. Je vais y revenir sur d'autres dossiers. Mais c'est ça la situation. Alors, situation éminemment dangereuse. Éminemment dangereuse, puisqu'au fond, on se dit qui prendrait la décision de faire une bêtise, c'est-à-dire d'ouvrir des hostilités, c'est ça que j'appelle une bêtise. Est-ce que ce serait vraiment le président ou est-ce qu'il serait mis devant le fait accompli ? Il serait obligé de couvrir parce que le tir serait parti et il faudrait qu'il dise oui, on a tiré. Tout ça est une situation très préoccupante qui renvoie en plus à une situation d'affaiblissement politique des États-Unis. Ce n'est pas simplement un conflit autour de la classe dirigeante, c'est un conflit politique qui est incapacité à résoudre la crise épidémique. Record du monde des décès du fait du Covid, malgré le fait que la majorité des médicaments sont sous brevet états-uniens, ça c'est pour le clin d'œil, mais ils s'en servent peut-être pas assez, je ne sais pas comment ils font. Et donc, une vraie crise de capacité politique, un retard économique qui s'accroît, un énorme endettement, puisque les États-Unis sont aujourd'hui le pays le plus endetté du monde, très très largement, et puis le constat qu'ils font petit à petit, sans que les Chinois insistent trop, ni les Russes trop, le constat qu'ils font petit à petit que sur un certain nombre de technologies de pointe, les États-Unis ne sont plus les maîtres du jeu. Et donc un sentiment d'affaiblissement qui peut amener à des réactions, j'allais dire, épidermiques de « je suis le meilleur et je veux le rester ». Ça, on sait quels dangers sont porteurs de ce type d'attitude. Voilà, ça c'était donc Israël qui suit. Alors, aucun pays au monde, mieux qu'Israël, n'est capable de se savoir de ce qui se passe dans les coulisses des États-Unis. Ça, il faut qu'on soit tout à fait net là-dessus. Leur infiltration dans l'appareil d'État, leur lobby officiel comme la IPAC, mais d'autres et tout, le fait qu'ils disposent de beaucoup d'argent à travers des milliardaires qui supportent le lobby sioniste, fait qu'aucun autre pays du monde n'est mieux renseigné qu'Israël sur la politique à l'intérieur de Washington. Et donc, eux, ils peuvent très bien savoir qu'il y a des éléments... bellicistes qui sont là, mais qu'il y a aussi des éléments qui seraient plutôt tendance à la composition, à négocier, à une attitude plus diplomatique. Et leur jeu, dans le dossier iranien, c'est clairement de dire il faut absolument que nous appuyions, que nous renforcions le camp de ce qu'on appelle couramment dans les journaux les faucons, de ceux qui veulent aller au combat. C'est ça qui se joue. Alors, on peut en parler comme ça, ça se joue sur des semaines, voire des mois. Parce qu'il peut y avoir un moment de faiblesse. Imaginez que Biden ait un accident cardiaque. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On sait que Kamala Harris était très très faible politiquement. Qui prendrait les grandes décisions à ce moment-là ? Bon. On en vient à dire, et c'est le cas de certains commentateurs russes qui s'intéressent de près à la question, on imagine pourquoi, parce qu'ils sont visés, que peut-être le personnage le plus raisonnable à l'heure actuelle en poste aux États-Unis, c'est le chef d'état-major des armées qui s'appelle le général Milley, qui a passé de longues heures au téléphone avec son homologue russe il y a de ça quelques semaines, et qui apparemment aurait compris que, je vais employer une expression très connue, qui s'y frotte, s'y pique. En gros, c'est à peu près ça. Mais qu'on en soit réduit, qu'un pays comme la Russie, je pense que du côté de la Chine, c'est un peu les mêmes constatations, à espérer qu'un monsieur qui est un général décoré, étoilé, chef d'état-major de la plus grande armée du monde, soit un peu raisonnable, c'est jouer sur des jeux extrêmement étroits sur un personnage qui n'est pas complètement désespérant, qui n'est pas complètement imbécile, qui n'est pas complètement fou, qui n'est pas impliqué dans cette atmosphère de « je suis le maître, je fais ce que je veux ». C'est quand même un jeu très, très dangereux. Imaginons que le jour où il a une décision grave à prendre, lui, soit en congé ou qu'il se casse une jambe, qui d'autre prend la place, voilà. Et tout ça, certainement, et j'insiste là-dessus, est connu des services secrets israéliens. Ça, c'est tout à fait clair. À ce propos, et ça n'a aucun rapport, mais quand même, je ne veux pas le dire, il circule un document extraordinairement intéressant sur la chute des tours du Centre de commerce international un certain 11 septembre 2001. Bon. Alors, je reviens là-dessus parce que c'est assez passionnant. Vous êtes dans la rue à New York, dans Manhattan, vous allez au bureau, vous avez attaché caisse à la main et tout, et vous ne voyez pas, vous n'avez pas le nez au l'air parce que vous allez tamponner les voisins, vous n'avez pas vu passer d'avion. Vous voyez simplement qu'à un moment donné, ça fume, ça brûle dans la tour et puis qu'après, elle va s'effondrer, tout ça est vu. Bon. Il se trouve que, alors raisonnez deux secondes, qui a vu vraiment les avions arriver sur les deux tours? Eh bien, probablement personne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun témoin oculaire ayant vu. Alors, ça va très très vite, on est dans un panorama de tours. Il y a quelques secondes entre le moment où l'avion arrive dans votre champ de vision et le moment où il percute la tour. La première et la seconde, c'est pareil. Donc, pratiquement, personne n'a vu, en vrai, les avions percuter les deux tours du Centre de commerce international. Ce qui veut dire que, et à ce moment-là, il y a beaucoup de bons esprits aux États-Unis, et des bons esprits scientifiques, sérieux, qui connaissent aussi la vidéo, les trucages, etc., qui se sont dit, et si on décide de fabriquer l'image d'un avion qui percute le centre de commerce international ? Ça, c'est très facile, ça se fait en 3D, rien, enfin, on sait faire. Et on arrive à ce résultat absolument ébouriffant, je vous le cite, c'est-à-dire que, en vrai, envoyer un avion qui va percuter une tour en acier, en béton, un avion en aluminium et en matériaux composites, qui à 600 à l'heure va percuter une tour en béton, eh bien, il explose en petits morceaux en percutant la façade. Évidemment, il ne peut pas faire autrement. Alors, il y a autant de tests qu'on a fait sur des camions, des trains, etc. C'est pas possible, vous envoyez un camion sur une muraille de béton, il ne traverse pas la muraille de béton. Il explose en petits morceaux dans tous les sens. Tout ce qu'on a vu des catastrophes aériennes, des vraies, c'est des morceaux d'avion, des petits bouts ici, d'aluminium. C'est très, très léger, l'aluminium. Et un avion, c'est très léger par nécessité. Bon. Et donc, les images que nous avons tous vues sont très probablement des images fabriquées. Parce que ce que nous... Alors, re-regardez, alors je vous laisse ce plaisir-là, vous ferez ça entre amis le soir du réveillon, mais ça vaut la peine. Regardez les avions percuter les deux tours, la tour sud et la tour nord du Centre de commerce international. Ils rentrent dans le béton et dans l'acier. Il y a 45 colonnes en acier à l'intérieur du bâtiment, comme un couteau dans du beurre chaud. C'est pas possible, c'est simplement pas possible. Donc, ça veut dire que toutes ces images que le monde entier a vues sont fabriquées a posteriori. Alors, ce qui n'est pas fabriqué a posteriori, c'est les tours qui s'effondrent. Là, il y a eu effectivement des explosions. C'est les 3000 personnes qui meurent dedans, ça c'est clair. Les personnes qui se jettent des étages parce qu'il y a le feu, ça on l'a vu, ça c'est horrible. Hein. Mais le point de départ, on ne sait pas s'il est ce qu'on nous a raconté. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Et il faut savoir qu'au moment où les tours s'effondrent, il a été filmé des Israéliens qui étaient en train de danser sur le sommet d'un camion qu'ils avaient loué pour assister au spectacle. Bon, c'est tout. J'en dis pas plus. Vous pouvez chercher, mais bonne distraction. Vous verrez, c'est très extraordinaire. Et essayez de faire rentrer, je ne sais pas ce que vous avez, un petit morceau de papier dans une façade en béton. Ou donnez du poing vous-même sur une façade en béton. Vous verrez que ça ne rentre pas comme dans du beurre chaud. Voilà, j'en ai fini avec cet aspect là d'histoire, mais il est quand même à rappeler. Il y a une excellente vidéo qui monte, alors qu'il dure 1h30, où il y a des tas de personnes qui interviennent, des gens qui fabriquent des animations en 3D, des gens qui vous montrent des essais donc de véhicules s'encastrant dans un autre, tamponnant un mur, etc. C'est absolument imparable, hein. C'est pas possible de rentrer dans un gratte-ciel comme ça, comme dans du beurre, quand on est un avion à 500 à l'heure en aluminium. C'est tout. J'en dis pas plus, mais en même temps, je dis pas rien. Je dis pas rien. J'ai donc parlé de l'Iran et de l'énorme activité d'Israël pour éviter que les États-Unis, qui sont dans une phase d'incertitude quant à leur politique, se mettent à renégocier avec l'Iran et arrêtent les sanctions, ce que demandent les Iraniens, arrêtent d'en rajouter même si nécessaire, et qu'on revienne à une situation un peu apaisée. Mais ce n'est pas le seul endroit où ce problème... Alors, les Israéliens font avancer, enfin, font monter la pression autant qu'ils peuvent, hein, en disant... plus on a de gens qui travaillent pour nous à Washington, mieux c'est. Et puis on va essayer de faire avancer nos intérêts. Nos intérêts, c'est de casser l'Iran. Casser l'Iran, parce que l'Iran a une capacité de défense. Et le Hezbollah, qui a de bons rapports avec l'Iran et qui a appris beaucoup de choses dans sa lutte pour la défense de la Syrie, est un cauchemar pour l'armée israélienne. Alors l'autre endroit où ça se passe, c'est l'Ukraine. C'est la deuxième zone d'hystérie. La deuxième zone d'hystérie, alors on arrive à des niveaux extrêmement élevés d'hystérie, puisque, à titre d'exemple, on a pu trouver ces derniers jours dans le journal allemand de grand public, qui s'appelle le Bild Zeitung, qui est une espèce de tabloïd grand public, etc., des cartes détaillées où on montrait les mouvements de troupes russes s'acheminant vers la frontière ukrainienne en prévision d'un assaut sur l'Ukraine. Alors, Bild Zeitung, c'est plusieurs millions de lecteurs tous les jours. Et puis, on fait accéder le grand public à la carte d'état-major. Il y a une guerre qui se prépare. Voilà où ils sont, voilà où on est, etc. Donc, on prépare l'opinion à dire la guerre va avoir lieu, hein, puisque les Russes font bouger des troupes. Alors, c'est le droit le plus absolu d'un État de faire bouger son armée à l'intérieur de son territoire, hein. Il faut savoir aussi que le territoire de la Russie fédérale s'étend sur 11 fuseaux horaires et qu'ils ne vont pas concentrer toute leur armée à cet endroit-là, particulièrement pour faire plaisir aux chroniqueurs occidentaux. Première parution, donc Bild Zeitung. Deuxième parution, le même type de carte avec où sont les troupes russes, elles se déplacent, elles se rapprochent de la frontière, ils arrivent, hein, banzai, j'allais dire. Hein, et ça, c'est dans le Washington Post, rien que ça. Washington Post, donc deuxième grand quotidien états-unien, à diffusion et à écho mondial, on met sous les yeux de la population générale mondiale, puisque ça se lit sur le net, le plan de bataille de la Russie. La Russie est là, ils approchent, il y a des chars d'assaut, il y a des ci, il y a des ça, on monte des photos, il y a des petits dessins et tout, qui est à la une du Washington Post. Comment on fait ? On ne peut pas faire mieux pour préparer un pays à une guerre qu'on a désirée, alors que la Russie est maîtresse de son destin, maîtresse des mouvements de son armée, hein, et qu'elle a répondu déjà à ce genre d'opération de propagande en disant « Mais moi, je fais ce que j'ai envie. De toute façon, tant que vous aurez de plus en plus de troupes, vous, otaniens, qui viennent le long de ma frontière, je serai libre de venir voir quand même si je ne peux pas protéger, si je ne dois pas, c'est mon devoir, c'est mon rôle, protéger ma propre frontière. » Mais on en est à une espèce d'inversion totale de la responsabilité. C'est là que c'est très, très inquiétant. C'est-à-dire que la Russie a dit et redit qu'elle n'avait l'intention d'envahir personne, mais qu'elle était souveraine chez elle et qu'elle défendrait son territoire. Et la propagande occidentale passe son temps à dire « ils vont attaquer l'Ukraine ». Alors, bien entendu, ils ont des complices en Ukraine à la tête du gouvernement ukrainien qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Mais on sent bien qu'il y a là une préparation à la guerre sur laquelle je voudrais m'arrêter. Parce que si guerre il y avait, ce que pour l'instant je ne crois pas possible, mais on verra comment ça peut évoluer. Parce que il y a la fragilité de l'appareil du système de décision aux États-Unis laisse des portes ouvertes, malheureusement, avec un facteur de hasard non nul, disons. Si guerre il y avait, il faudrait que nous, Européens, on se rappelle des deux premières guerres mondiales. C'est-à-dire que les États-Unis ne viennent que in fine pour ramasser la mise, mais que les morts sont d'abord des Européens. Hein ? Alors, soviétiques dans le cas de la Deuxième Guerre mondiale, allemands aussi dans le même cas, pour des raisons contraires, français un peu moins, britanniques. Donc, en fait, le fait de... pour les médias français, occidentaux, de dire « Oh là là, la Russie va attaquer l'Ukraine », c'est s'aveugler sur le fait que si jamais ça débouchait sur un conflit armé, ce conflit armé a lieu en Europe et que les victimes seront principalement des Européens, qu'ils soient Ukrainiens, Polonais, Tchèques, tout ce que, y compris Français, on est un peu plus loin de la zone de bataille. Hein. Ils seront certainement dans les pays baltes, qui sont là, qui sont les plus acharnés anti-russes, ils seront certainement en Pologne, qui sont acharnés anti-russes, et ils sont certainement aussi en Ukraine, où il y a à la tête du pays une équipe de crypto-fascistes qui sont acharnés anti-russes. Mais c'est là que je suis un peu affolé par l'espèce de suivisme des médias européens. C'est-à-dire, on nous vend la future guerre de la Russie contre l'Ukraine sans regarder l'endroit où elle va concrètement, où elle risquerait de se passer. Or, l'endroit où elle risque de... C'est ici. Hein. Les États-Unis, on le sait, c'est leur jeu très cynique d'ailleurs, c'est de dire, j'attends qu'ils s'entretuent et j'interviens à la fin et c'est moi qui fais l'arbitre et qui ramasse la mise. C'est, bon, c'est ce qu'ils ont fait pendant les deux guerres mondiales. Ils n'ont pas de raison de changer dans la mesure où ils sont loin du champ de bataille. Ceci étant, ce qui les retient, c'est que, et ça a fait partie à ce qu'on sait des entretiens entre le chef d'état-major des États-Unis et le chef d'état-major russe, c'est de dire, nous riposterons si nous sommes attaqués. Et nous riposterons, y compris chez vous. Hein, que les choses soient bien claires. C'est-à-dire que, bien sûr, on essaiera d'annihiler les éléments de tir qu'il y a tout près de notre frontière sur le continent européen, mais vous aurez droit aussi à notre riposte chez vous. Et c'est ça ce qui, je pense, peut donner à réfléchir au général Milley et à ses collaborateurs, dire effectivement, si aujourd'hui il est certain, et c'est tout à fait possible techniquement, du fait de l'existence des missiles hypersoniques, qu'une partie de la riposte se fait sur le territoire des États-Unis, c'est un élément nouveau de la situation qui n'a existé ni pendant la Première Guerre mondiale, ni pendant la Seconde. Et donc on est dans des conditions totalement différentes. C'était là-dessus que je voulais m'arrêter. Et avant de faire un petit intermède franco-français. Alors voilà, j'anticipe parce qu'il fait... j'anticipe parce qu'elle a lieu ce soir. Donc il est prévu ce soir un long entretien téléphonique entre Biden et Poutine, donc en fin de journée aujourd'hui, qui se présente alors dans des conditions tout à fait classiques, c'est-à-dire que les États-Unis annoncent à l'avance « Nous n'accepterons aucune ligne rouge », c'est-à-dire, il n'y a rien à négocier. De toute façon, nous, on veut ça. Si vous ne voulez pas, vous avez tort. Et surtout, ne mettez pas de limite. Si, par exemple, Poutine dit « Mais je ne veux pas que vous envahissiez la Russie », l'autre dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces conditions ?» Enfin, en gros, c'est à peu près ça. Bon, on est à un niveau de stupidité, je ne sais pas comment qualifier ça. Hein. Vous ne pouvez pas poser de conditions. Alors, il y en a un qui pose des conditions tout le temps, c'est ses conditions à lui, et l'autre qui doit accepter toutes les conditions et ne pas en avoir. Bon, on est dans un rapport complètement inégal, un rapport de domination impériale, tout y est. Hein. C'est-à-dire, on négocie, mais d'abord vous couchez par terre, vous me léchez les bottes, hein, vous, hein, et puis voilà, après on peut négocier. Une fois que vous êtes allongé, que vous dites j'accepte tout parce que j'ai mal. Hein. On pense, enfin, à la limite, mais je ne pense pas que Poutine puisse être traité comme a été Floyd George. Hein. C'est-à-dire, on ne lui met pas le pied sur la tête en disant « Maintenant, hein, tu vas t'arrêter ». Ça, je crois que ce n'est pas demain la veille. Et j'allais dire, heureusement, parce que c'est des pratiques inacceptables en termes de rapport entre nations. Bien. Et on va en venir par le petit intermède français que je vous ai ménagé. Alors, on commence par un petit enregistrement saisi dans une émission de France Culture de la semaine dernière, où on va parler de panthéonisation. Alors, on n'est pas tout à fait loin du climat de guerre.
Joséphine Baker, qui s'exprimait en 1963 sur son engagement dans la résistance. Sébastien Albertelli, elles ont suivi de Gaulle, histoire du corps des volontaires françaises 1940-1946, mais l'étude est toujours compliquée dès que nous touchons comme ça à des engagements extrêmement personnels. Dans le cas de Joséphine Baker, sommes-nous face à un agent de résistance qui sait avec qui elle travaille dans ces organisations, ce bureau central du renseignement et d'action, ou alors avec juste un individu qui l'a contacté?
Alors, Dans le cas de Joséphine Baker, là, on touche à un problème majeur de rédaction de l'histoire. C'est que c'est compliqué de parler d'histoire au moment où, en fait, l'atmosphère est plutôt à l'héroïsation. Et dans le cas de Joséphine Baker, contrairement, par exemple, au cas de Pierre Brossolette, Geneviève Antonius de Gaulle, qui ont été panthéonisés il y a maintenant 5 ou 6 ans, là, on a une panthéonisation qui, sur cette période de la guerre, précède le travail des historiens. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a aucune donnée fiable sur le parcours de Joséphine Baker pendant la période de la guerre, ou en tout cas dans l'activité de renseignement. À ma connaissance, le seul travail existant a été commencé il y a 4 ou 5 semaines par une collègue britannique, Anna Diamond, qui commence à chercher. Mais au jour d'aujourd'hui, les seules choses que l'on connaisse viennent d'une source unique, d'après la guerre, d'un livre du commandant Aptay, qui est pour le moins peu fiable. Donc c'est extrêmement compliqué d'essayer de donner des connaissances fiables sur son engagement. Il est certain, il y a quelques éléments qui sont certains, qu'elle a contacté les services de contre-espionnage en 1939, qu'elle aspirait à faire bien davantage que du music hall, qu'elle a très certainement aidé un homme, Aptay. Je n'ai jamais trouvé la moindre trace d'un lien avec la France libre et avec les services gaullistes. En 1943, en Algérie, effectivement, des liens se sont noués. Mais la chronologie reste extrêmement floue. Et encore une fois, les connaissances sont à trouver.
Voilà. Alors, ça, c'était la semaine dernière sur France Culture, dans une émission consacrée à l'histoire, où on n'accueille que des agrégés, docteurs, etc., bon, qui ne sont pas contestables. Alors, la personne qui parle s'appelle M. Sébastien Albertelli. Il est agrégé, il est docteur en histoire, il est spécialiste de l'histoire de la Résistance, de la France libre et des services secrets. Bon, donc on peut avoir confiance dans son jugement. Les plus grands éditeurs l'ont eu. Alors, je donne la liste de ses bouquins. Les services secrets du général de Gaulle, donc le BCRA de 40 à 44 aux éditions Perrin, c'est en 2009. Atlas de la France libre aux éditions Autrement en 2010. Les services secrets de la France libre chez Nouveau Monde en 2013. L'histoire du sabotage de la CGT à la Résistance chez Perrin, toujours en 2016. La lutte clandestine en France, une histoire de la Résistance 40 à 44, avec deux collaborateurs, Julien Blanc et Laurent Douzou, chez Le Seuil, et l'un dernier publié, Elles ont suivi De Gaulle chez Perrin en 2020. Donc le personnage paraît incontournable et un des rares à avoir fait ce travail sur ces éléments-là. Donc, Joséphine Baker a été panthéonisée comme grande résistance, alors que la matière manque. Alors, j'ai pas eu la méchanceté de vous faire entendre les bégaiements de l'animateur de l'émission après, parce que on sent bien qu'il est un peu gêné. C'est une émission qui durait ça, 1 heure. Il a été pris au piège de cette question-là. Il a été obligé d'y répondre en toute honnêteté avec ceux qui savent. Il y a aucun élément, on peut rien dire sur Joséphine Baker résistante. Et l'autre, on voit après, bon, chacun pense ce qu'il veut. Enfin, il est très très embêté parce qu'il s'attendait pas du tout à ça. Bon, voilà. Alors voilà comment on fabrique l'héroïsation. Alors, et en plus, d'une certaine façon, il ne faut pas du tout tomber dans ce genre, salir une personne qui n'est pas salissable. Elle est tout à fait respectable. Elle a fui les États-Unis où elle était maltraitée en tant que noire. Hein. Elle est arrivée en France, qui l'a accueillie tout à fait correctement. Mais il faut savoir, parce que ça se trouve aussi dans les archives, que les ligues d'extrême droite lui ont craché dessus pendant des jours et des jours, et à Edith Antier, hein, cette femme nue qui est toute noire, etc. Vous imaginez les ligues racistes et factieuses, hein, dans les années 37-38, hein, ils lui ont dit beaucoup, beaucoup de mal de Joséphine Baker. Donc, pas de surprise à ce que cette femme généreuse, qui portait les souffrances d'avoir été maltraitée par les racistes des États-Unis, souffrait aussi des expressions racistes d'une partie de la droite française, qui n'est pas morte, je le rappelle, au cas où quelqu'un aurait oublié la campagne présidentielle qui démarre. Bon, donc elle a souffert, et qu'elle ait manifesté de la sympathie pour De Gaulle va de soi. Il n'y a pas de souci. Mais de là en faire une grande résistance, ben non, c'est une fabrication. C'est une fabrication pour dire, hein, les femmes, alors, pour faire clin d'œil aux féministes, enfin, toutes les soupes macroniennes dont on est habitué, hélas, maintenant, pour fabriquer un héros à partir d'une femme, finalement, qu'on implique dans une affaire dont elle n'est pas maître. C'était certainement une personne généreuse qui a beaucoup fait par ailleurs, mais il ne faut pas lui donner un rôle politique qu'elle n'a jamais eu. Dernier mot sur l'agent en question, le seul livre dont il est fait question, est un livre écrit par lui, un membre des services secrets, qui en fait a utilisé pendant toute la durée de la guerre Joséphine Baker comme couverture. Il se présentait comme l'impresario de Joséphine Baker. Elle était très populaire, donc elle allait où elle voulait, elle rencontrait Pierre-Paul et Jacques, des officiels et tout. Il était derrière. Et donc là, il faisait son boulot d'agent de renseignement parfaitement. Il avait un des meilleurs supports, une des meilleures couvertures, puisqu'elle était souriante, acceptée, généreuse, sympathique. Elle pouvait aller un peu n'importe où, dans les soirées mondaines, etc., être reçue par des ministres, etc. Pas de problème. Et lui faisait son boulot d'agent secret. Mais, comme dit Albertelli, il est le seul témoin, le seul qui ait écrit là-dessus. Personne d'autre. Donc, vous voyez que lui, il a profité pour dire, voilà, on a... Moi, j'ai bien travaillé, mais personne ne recoupe. Et donc, Joséphine Baker n'était pas membre des réseaux de renseignement. Toute sympathique qu'elle soit, par ailleurs, la question n'est pas là. Mais c'est une utilisation d'un personnage qui est plutôt bien vu, qui a été, je vous dis, sali puissamment par les fascistes dans l'entre-deux-guerres, et qui a porté, pendant toute sa vie, la souffrance d'avoir été maltraité par les racistes des États-Unis. Je rappelle que, alors... Dernière chose, mais qui est assez frappante, après la guerre, elle est reçue aux États-Unis, on l'invite, puisqu'elle fait partie du camp des vainqueurs, etc. Elle est invitée par des gens du monde du spectacle, je ne sais plus dans quel restaurant de New York, dans un grand restaurant étoilé, etc. Elle s'installe avec eux dans ce grand restaurant de New York, et on ne la sert pas à table. C'est-à-dire, les autres ont à manger dans leur assiette, elle ne lui donne rien à manger parce qu'elle est noire. Et donc, elle, à la limite, elle avait bien raison de quitter les États-Unis et de prendre la nationalité française, parce que c'était après la guerre. Bon. Donc, voilà, resituer le personnage, mais voilà, un personnage sympathique qu'on utilise à des fins politicardes. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis, qui avait le courage de ses opinions, mais qui ne pouvait pas jouer un rôle auquel elle n'était pas du tout préparée. Voilà. C'était pour faire le point sur ces façons de traiter l'histoire par la République macronienne, qui est une mystification permanente. Et là, c'en est une de plus avérée. Et c'est dommage, enfin, moi, je ne veux pas du tout, au contraire, salir cette personne, mais l'impliquer dans des débats où elle n'est pas, c'est la facilité. Et puis dire, nous, on est quand même plus évolués que les États-Unis. Ça reste à voir, avec les candidats que tu as au présidentiel face à toi, Macron, tu devrais réfléchir à ce que tu dis par rapport à ça, parce que la France n'est pas très, très jolie à voir en ce moment. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'était un petit épisode, là, un petit intermède franco-français, mais il fallait quand même qu'il fût fait. Puis je vais rester dans les intermèdes franco-français pour parler de la visite du président de la République française dans le Golfe arabique, et en particulier de sa visite dans les Émirats arabes unis. Alors, sa visite dans les Émirats arabes unis, où il a été reçu par le prince MBZ, comme on dit dans les gazettes, donc l'héritier du trône d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, surtout ne pas confondre, s'est conclu par l'achat par le DPI d'un certain nombre d'avions Rafale, 80 autant que ça, un très très beau contrat, qui a permis un peu à la France de dire, et à Le Drian de dire, vous voyez quand même, bon, les Américains nous ont fait un mauvais coup avec les sous-marins australiens, mais quand même, on continue à vendre, on est content et on a des amis. Alors, on a des amis, effectivement. Alors, situons ces amis. Les Émirats arabes unis, comme leur nom l'indique, c'est un rassemblement de plusieurs Émirats qui ont beaucoup d'argent dans leur caisse, parce que d'abord, ils sont très, très peu nombreux, il n'y a pas beaucoup de citoyens à nourrir, et qu'il y a un des Émirats, qui est l'Émirat de Abu Dhabi, qui a beaucoup de pétrole, pas les autres. Les autres profitent de la situation. Dubaï, par exemple, n'a pas de pétrole, mais Abu Dhabi en a. Donc Abu Dhabi régale, disons, avec son pétrole, tous ses voisins émirs, que ce soit Fujairah, enfin, je ne fais pas le détail, vous pouvez regarder ça sur des atlas. Donc, en allant dans les Émirats arabes unis, Emmanuel Macron va à un endroit où il y a beaucoup d'argent, des gens qui ont de l'ambition, qui ne sont pas du tout des imbéciles, qui savent qu'ils ont, pour l'instant, ils sont assis sur un tas d'or, que ce tas d'or, un beau jour, peut-être dans 50 ans, il n'y aura plus de pétrole, plus de gaz, donc il faut qu'ils se préparent à la suite des événements. Donc, ils investissent, ils achètent, ils se font des amis ici et là, ils placent leur argent. Bon, rien de surprenant dans le monde dans lequel on se trouve. Il faut quand même insister sur le fait que cet achat de 80 Rafales n'intervient pas dans un terrain vierge du tout. Les relations entre la République française et les Émirats arabes unis sont extraordinairement étroites. Et ça, on ne l'a pas trop dit. On dit, ah, ils sont gentils, ils nous achètent notre matériel. Bon. Il faut savoir d'abord que la principale base militaire française dans cette région du monde, elle est à Abu Dhabi. Vous avez donc en permanence, à Abu Dhabi, dans la zone portuaire, des soldats français, des navires de guerre français, des avions français qui atterrissent. Et donc, il y a des liens très très étroits. Et il y a aussi des liens où on fait des endroits dans cette installation où on fait la formation des militaires des Émirats pour utiliser le matériel français qu'ils viennent d'acheter. Tout ça fait partie du dispositif de vente d'armement. Donc ça, c'est une première donnée. Il faut savoir que cette base d'Abu Dhabi est une invention de Nicolas Sarkozy. Elle a fait suite à une volonté, disons, de quasi-total désengagement. Vous savez que la France avait une base militaire de longue date depuis les décolonisations à Djibouti. Et puis, comme à Djibouti, il y a un peu trop de densité militaire, puisque tout le monde a des bases. Je te rappelle qu'à Djibouti, il y avait une base française dont, en gros, les installations sont utilisées par les États-Unis. Il y a une base chinoise qui est la seule au monde maintenant à l'étranger. Il y a une base japonaise. Il y a une base italienne. Il y a des bateaux indiens de guerre qui viennent assez régulièrement. Enfin, c'est un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et en fait, la France a décidé d'aller aux Émirats arabes unis pour être plus tranquille. Là, elle est toute seule. Il y a moins d'espions de toutes les couleurs, etc. Et puis, on a un ami qui nous achète du matériel. Djibouti n'achetait pratiquement rien. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Ça ne s'arrête pas aux liens militaires extrêmement étroits. Et il y a aussi des liens économiques, sur lesquels je vais m'arrêter deux secondes, parce qu'on habite à Marseille, dans un lieu où il y a un port. Il faut savoir que la principale installation de déchargement et de chargement des conteneurs dans le port de Marseille est propriété à 50% des Émirats arabes unis. Ça, on le dit pas, on fait pas cocon. Alors, bien entendu, on dit, alors, bien sûr, la France, entre guillemets, a maintenu le contrôle de la situation, puisque le 50% restant est entre les mains de la CMA, armement français. Encore que, on peut en discuter, puisque la CMA a fait une filiale de droit français qui s'appelle Terminal Link, où elle a une partie du capital, mais elle n'en a que 51%, et 49% du capital de cette société appartient à une boîte chinoise. Bon. Donc la France est présente, mais enfin avec 49% de Chinois et moitié et 50% d'Émirats, on est là, parce qu'on dit c'est chez nous quand même, il faut qu'on montre le drapeau tricolore, ça ne va pas très loin. Donc c'est simplement pour vous dire, c'est comme ça, hein, c'est comme ça que les Émirats sont des amis très très puissants du capitalisme français. Ils font marcher ses usines, ils font marcher en partie ses ports. Vous voyez que ça vaut cher. Et pourquoi ils le font ? Parce qu'ils ont de l'argent. Hein, et donc l'argent, enfin, les capitalistes français cherchent de l'argent, ils en trouvent là où il y en a. Ça amène aussi à voir à quoi servent les Émirats arabes unis dans la guerre du Yémen. Alors vous savez, je résume, dans la guerre du Yémen, vous avez un gouvernement officiel qui a fui le Nord-Yémen où sont installés les Houthis de Hansarallah, avec le président Hadi, qui s'est réfugié, il n'est probablement d'ailleurs pas sur place, il s'est réfugié en Arabie Saoudite, on l'a accueilli, mais il y a une espèce de semblant de gouvernement officiel du Yémen qui siège à Aden, qui jusqu'à la date d'aujourd'hui est toujours reconnu par l'ONU comme le gouvernement officiel du Yémen, bien qu'il ne maîtrise pas grand-chose, puisque lui, le président lui-même, est parti. Les ministres sont là, ils ont le titre, et puis ils ont un bureau, probablement. Mais en fait, l'occupation, la partie sud et est du Yémen, est occupée pour partie par l'armée d'Arabie Saoudite, pour partie par l'armée des Émirats Arabes Unis, dans un rapport de concurrence extrêmement vif. C'est ça qu'il faut savoir aussi. Il y a des tensions au sein de la péninsule arabique qui sont pas nulles. Alors, pourquoi des tensions ? Alors, ils ont tous les deux le même point de départ, c'est-à-dire une immense richesse, un tas d'or, des dollars en veux-tu en voilà, parce qu'ils ont du pétrole et du gaz. Mais la différence est quand même très importante, parce que l'Arabie saoudite a un très grand territoire. Elle a une population à nourrir aussi correctement que possible, hein, plus de 30 millions d'habitants. Les Émirats arabes unis, ils n'ont personne à nourrir, hein, puisque la grosse partie des habitants et des travailleurs qui sont dans les Émirats arabes unis ne sont pas des Émiratis. C'est quelques centaines de milliers de personnes, des Émiratis. Donc, en fait, le pouvoir saoudien a un rapport nécessairement très différent avec sa population que les Émirats arabes unis. C'est-à-dire qu'il y a quand même un État saoudien qu'il faut faire fonctionner, et le faire fonctionner sans qu'il éclate. Bon. Et donc la tension entre les deux est forte, puisque les Émirats arabes unis aimeraient bien avoir un rôle plutôt ouvert, on place nos capitaux, mais on ne s'embarque pas dans des histoires, par exemple dans des histoires religieuses. Les Émirats arabes unis ne sont pas à la tête, alors ils financent, ils vont donner de l'argent à des groupes djihadistes, mais ils ne les encadrent pas idéologiquement, ils ne les forment pas et tout. Ils veulent se situer un peu à l'écart de ce jeu-là, comme étant simplement des gens qui ont des capitaux et qui essayent de les placer. Alors, ils ne sont pas du tout en train de chercher une démocratie, je n'insiste pas là-dessus. Alors, donc, ce que M. Macron a fait, il est venu reconnaître un état de fait de l'extrême dépendance du capitalisme français par rapport au capitalisme des Émiratis, c'est tout à fait clair. Et par toute une série, alors je vous ai cité le cas des ports, mais il y a toute une série de liens très très profonds dans l'économie française entre l'argent des Émirats et l'économie française contemporaine. On pourrait faire toute une liste. Ça, c'est très très important. Et du point de vue politique, les Émirats ne pèsent pas suffisamment pour influer sur la politique de la France. Ce qui ne serait pas le cas de l'Arabie saoudite, qui pourrait dire « moi, je pèse beaucoup plus lourd, et en plus, je peux vous menacer parce que moi, avec mon wahhabisme, je finance des terroristes et je peux vous faire très très mal ». Ce n'est pas du tout la ligne des Émirats arabes unis. Donc il faut bien distinguer les choses, mais voir que la visite de M. Macron donc, est une espèce d'aveu de cette dépendance du capital des Émiratis. Et d'autre part, c'est un aveu aussi, et j'insiste là-dessus, du fait que l'armée française, ou plutôt les marchands d'armes français, sont impliqués très directement dans la guerre du Yémen. Alors ce sera les rafales, pas tout de suite, mais il y a déjà beaucoup de matériel, il y a des soldats français qui encadrent des soldats émiratis, il y a du matériel, il y a des hélicoptères et des tas de choses dans la base d'Abu Dhabi. Donc la France est impliquée assez directement dans la guerre du Yémen. Donc ce que M. Macron a fait, il a aussi reconnu donc, que la France était partie prenante dans la guerre du Yémen avec les dégâts que l'on sait du point de vue humain. Voilà, pour essayer de faire un bilan de cette visite sous tous les aspects possibles. Et vous voyez qu'on est assez loin de la présentation au Cocorico, on a glané un contrat par hasard, on est passé, et sur le marché, il y a quelqu'un qui nous interpelle, dit, t'aurais pas 80 rafales? Ouais, vas-y, je te les vends. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les liens entre le capital français et le capital émirati sont très, très étroits. Et quand vous voyez, je dis, une installation portuaire dans le port de Marseille, où il y a 50% du capital qui appartient aux Émirats, vous dites, c'est quand même assez étroit, mais c'est quand même un endroit important pour le commerce extérieur de la France. Bon. Alors, j'enlève rien. Alors, la société que les Émirats ont montée, qui s'appelle Dubai Port World, c'est une société qui, dans le monde entier, gère des quais et des ports à containers. Ils savent faire, ils ont le professionnalisme. D'ailleurs, la plupart des cadres de cette entreprise ne sont pas émiratis, pas plus que moi. Ils sont embauchés en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne, enfin, des cadres très compétents dans ce métier-là, mais qui font tourner le capital des Émirs. C'est ça le but de la main. Il faut que le capital, vous savez, on dit toujours que le capital qui dort fait de mauvais rêves. Bon, on est exactement dans cette situation-là. Et je voulais vous le faire partager. Dernier point, donc je vais parler de l'Ukraine. Les Émirats, on en a parlé. Alors, on va finir là-dessus parce que c'est à l'époque, c'est la date plutôt. On va parler du sommet de la démocratie. Hein, puisque ça commence donc après-demain, et donc ça dure deux jours, le 9 et le 10, c'est ça, oui, ça donc le sommet de la démocratie, donc convocation de M. Biden des États-Unis à un certain nombre de pays qui sont les défenseurs de la démocratie, alors je mets ça avec tous les guillemets nécessaires, pour montrer qu'il y a d'un côté dans le monde un camp des démocrates, alors qui va réussir à recruter à peu près 110 pays, Alors des vrais affidés, disons, je parle les pays baltes ou la Pologne et tout, qui sont acharnés là-dessus, et puis d'autres qui vont venir pour ne pas se fâcher. Donc il y aura un peu tout là-dedans. Et puis il y a les autres qui ne sont pas invités, et qui d'ailleurs n'ont pas envie de venir, et qui sont en train de dire ce qu'ils pensent eux aussi de la démocratie. Et à ce propos-là, je vous lirai quelques extraits d'un communiqué commun des deux ambassadeurs de Russie et de Chine à Washington qui ont écrit en anglais un texte destiné à la population des États-Unis pour que la population des États-Unis sache que ces deux pays-là ne sont pas des pays de sauvages gouvernés par des brutes avinés, mais des pays où il y a d'autres formes d'expression politique, d'autres manières de gouverner, mais qu'après tout, ils s'en sortent assez bien dans toute une série de domaines. C'est ça l'idée. Alors, qu'est-ce qui va se dire à ce sommet de la démocratie? On verra bien, mais enfin, on voit arriver déjà les gros rouleaux compresseurs de la propagande. On va dire, il y a d'un côté un bon régime, les démocraties, de l'autre côté, tous les, alors qu'on les appelle les autoritaires, on n'ose pas dire les fascistes, mais on peut quelquefois le penser ou le faire supposer. Enfin, tous ceux qui ne sont pas comme nous, et tous ceux qui ne nous obéissent pas. C'est ça le problème. tous ceux, par exemple, tous les pays où il n'y a pas de base militaire des États-Unis, hein, par exemple. Tous ceux qui reconnaissent le régime chinois, le gouvernement de Pékin, et pas Taïwan. Hein. À propos, j'ai fait une petite recherche sur Taïwan, ça va vous amuser. Il reste aujourd'hui, j'espère que j'ai pris le papier, il reste aujourd'hui, je crois, 16 pays qui, voilà, je les ai là, qui continuent à reconnaître Taïwan comme représentant la Chine dans son ensemble. Alors je vous les donne, parce que c'est à la limite risible, avec la date à laquelle ils ont reconnu le régime de Taïwan. Alors le Belize, vous savez, c'est un petit morceau là qui est pointé sur le Mexique, en 1989. Le Salvador, 1961. Le Guatemala, en 1960. Haïti, un des premiers, en 1956, mais on sait la liberté de manœuvre des gouvernements haïtiens par rapport aux États-Unis. Honduras, en 1965. Et puis après, on arrive dans les petits archipels du Pacifique, Kiribati en 2003, les îles Marshall en 1998, Nauru en 2005, le Nicaragua, je m'arrêterai là-dessus, j'y reviendrai, le Paraguay, Saint-Kitts et Nevis, petite île des Caraïbes, Sainte-Lucie aussi, Saint-Vincent, les Grenadines, une autre, les îles Salomon, c'est encore dans le Pacifique, un pays d'Afrique, le dernier qui reste impliqué, le Swaziland, qui reconnaît Taïwan, le Tuvalu, encore un archipel pacifique, et la cité du Vatican, in fine. Voilà les 18 supports de Taïwan, qui eux seront tous évidemment au sommet de la démocratie, hein, mais c'est à peine risible parce que ça doit représenter, je n'ai pas fait le calcul, mais ça doit représenter 10 millions de personnes ou 20 millions de personnes en tout, sur 7 milliards, mais ils sont pour la démocratie à l'américaine. Bon. Donc ils ont été... Soyons clairs et pas méchants avec les dirigeants de ces petites îles. Ils ont été achetés pour faire ça. Et puis voilà, ils doivent le faire. Je m'arrête, je reviens un tout petit peu sur le cas du Nicaragua, qui est assez intéressant en fonction de la date de reconnaissance de Taïwan. C'est 1990. Alors, il faut savoir que 1990, c'est la date à laquelle Mme Chamorro, la droite pro-états-unienne, arrive par les élections à renverser les sandinistes de Daniel Ortega. Elle lui prend la place par des élections. Et donc, un de ses premiers gestes est de reconnaître Taïwan, alors que les sandinistes avaient reconnu Pékin. Et ce qui s'est passé depuis, alors je me suis demandé pourquoi, effectivement, depuis qu'il est revenu au pouvoir, Ortega n'avait pas remis ça en cause, c'est qu'effectivement, il est d'abord voulu se réinstaller, ce qui est fait maintenant au pouvoir. Peut-être un jour, il se posera la question, mais il doit se dire, peut-être comme d'autres, d'ailleurs comme l'Honduras, je vais y revenir, se fâcher avec les États-Unis et se fâcher sur tous les sujets, c'est lourd à porter pour un petit pays de 10 millions d'habitants. Alors, j'en viens sur le Honduras, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Vous savez que le Honduras a élu Mme Castro comme nouvelle présidente, comme étant considérée comme de gauche. Un des premiers gestes des États-Unis à l'annonce de son succès, ça a été de dire « Surtout ne reconnaissez pas la Chine populaire. Vous devez rester dans notre camp. » Alors, je pense qu'elle n'aura pas la force, et le pays est trop petit, et puis les liens avec les États-Unis sont trop étroits, avec la diaspora hondurienne, trop étroits pour qu'elle ait le courage de franchir le pas. Hein. Mais ça a été une des premières interrogations des États-Unis. Surtout, hein, ne reconnaissez pas Pékin. Parce qu'ils savent derrière que quand un pays reconnaît Pékin, effectivement, les Chinois arrivent en disant « Puisque vous nous reconnaissez comme le gouvernement de la Chine, si vous voulez qu'on travaille ensemble, on travaille ensemble. Si vous reconnaissez Taïwan, ben débrouillez-vous avec les Taïwanais. Hein » Bon, finalement, ça va de soi. Donc je voulais insister là-dessus parce que c'est... Alors, je suis très heureux qu'il n'y ait plus qu'un seul pays d'Afrique parce qu'ils sont tombés les uns après les autres. Hein. Il y a eu Sankara a fait changer de position. Enfin, ils sont tombés les uns après les autres, mais il reste presque plus. Mais il reste que presque rien. Presque rien. Presque zéro. Voilà. C'était intéressant à noter. Je regarde l'heure pour ne pas faillir au besoin. Alors, pour vous donner lecture de quelques éléments, donc, je vous parlais donc des deux ambassadeurs. Alors, il faut savoir qu'en réponse au sommet de la démocratie, à la fois à Pékin, il y a eu toute une série de séminaires. Donc il y a ce soir la discussion entre Biden et Poutine par vidéo. Et puis les deux ambassadeurs donc aux États-Unis se sont fendus d'un texte commun en anglais à destination donc, de la population des États-Unis qui est paru sur un site qui s'appelle National Interest. Et je vous en lis quelques passages. Et ils disent la chose suivante. Les États-Unis accueilleront le Summit for Democracy en ligne les 9 et 10 décembre 21, s'autorisant à décider qui peut assister à l'événement et qui ne peut pas y assister, qui est un pays démocratique et qui ne peut prétendre à ce statut. Produit évident de sa mentalité de guerre froide, cette initiative va attiser la confrontation idéologique et la fracture dans le monde en créant de nouvelles lignes de démarcation. Cette tendance est en contradiction avec l'évolution du monde moderne. Il est impossible d'empêcher la formation d'une architecture polycentrique mondiale, mais cela pourrait nuire au processus objectif. La Chine et la Russie rejettent fermement cette tendance. La paix, le développement, l'équité, la justice, la démocratie et la liberté sont des valeurs communes à l'humanité. La démocratie n'est pas l'apanage d'un certain pays ou d'un groupe de pays, mais un droit universel de tous les peuples. Elle peut être réalisée de multiples façons et aucun modèle ne peut convenir à tous les pays. L'efficacité de la voie choisie par un pays dépend de sa capacité à répondre aux réalités de son pays, à suivre la tendance du moment et à favoriser le développement économique, la stabilité et le progrès social, ainsi qu'une vie meilleure pour la population. En définitive, elle repose sur le soutien du peuple et sera prouvée par sa contribution au progrès humain. Par conséquent, un critère de base de la démocratie devrait concerner le peuple, c'est-à-dire savoir si le peuple a le droit de gouverner son pays, si ses besoins sont satisfaits et s'il éprouve un sentiment d'épanouissement et de bonheur. Si le peuple, j'insiste sur cette phrase parce qu'elle doit éveiller des échos au moment où nous rentrons dans la partie la plus folle de la campagne présidentielle du mois d'avril 2022. Écoutez bien. Si le peuple n'est réveillé qu'au moment de voter, et qu'il est renvoyé en hibernation une fois le scrutin terminé, s'il est servi avec de beaux slogans pendant les campagnes mais qu'il n'a pas son mot à dire après l'élection, s'il est courtisé pendant la prospection mais laissé sur le carreau par la suite, il ne s'agit pas d'une véritable démocratie. Donc là, on est au cœur du problème. Et par exemple, quand on fabrique une héroïne de la résistance à partir de rien, effectivement, on est dans la prospection, on est dans la campagne électorale et pas ailleurs. Voilà. Alors il y a ce texte-là. Et puis il y a, alors je ne lis pas, mais c'est trop long, la Chine, le ministère des Affaires étrangères de Pékin, s'est fendu d'un texte, d'une analyse très complète d'une vingtaine de pages sur les atteintes aux droits de l'homme sur le territoire des États-Unis. En disant, maintenant, ça suffit, regardez chez vous, regardez ce qui se passe et arrêtez de donner des leçons. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il ne s'agit pas de dire que la Chine, c'est le rêve, mais il s'agit de dire à celui qui donne des leçons, regardez, regardez-vous dans la glace. Voilà, je finirai là-dessus, et on va finir par une petite évocation de la résistance, celle qui a eu lieu, par une petite chanson très belle que vous connaissez tous et qu'il est bien agréable d'entendre chanter par les temps qui courent. Merci de votre attention, et on se retrouve demain soir pour une émission sur les élections en Côte d'Ivoire et les partis politiques. Merci Sidi.
Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir,